Alors, Bezat Hashem, aujourd'hui on va faire un Shelot Utshuvot concernant bien entendu la période dans laquelle nous sommes, et vous êtes donc invités à poser des questions, et Bezat Hashem, j'essaierai de répondre de mon mieux. Donc si vous avez des questions concernant toute cette période, Ben Hametzarim, Shiva Asar de Tammuz, Tisha B'Av, Gam Tshuva, לא נורא, לא חשוב, אלוהי.
רק מראה
ישמעו אותה, בסדר גמור. Donc je vais répéter les questions que vous dites pour que les auditeurs puissent aussi bénéficier non seulement de ma réponse, mais de votre question aussi. Alors je vous écoute. Il faut mettre un petit machin là-bas.
Il faut arriver en ça.
Quelle est la différence entre le premier, le deuxième et le troisième Beth Amikdash?
La différence entre les trois Beth Amikdash. Voilà la question qui a été posée. Et en réalité, il faut comprendre que dans le premier Beth Amikdash, il y avait une notion fondamental au niveau de l'individualité. Il manquait une prise de conscience du collectif Israël, qui a été réparée dans le deuxième Beth Mikdash, mais malheureusement inversée. Autrement dit, il y avait une notion de klal, mais on avait oublié l'importance des individus. Le troisième Beth Amikdash, c'est justement le Beth Amikdash qui va faire le lien entre le klal et les pratim. Donc le troisième Beth Amikdash, c'est un équilibre entre le chesed du premier Beth Amikdash et la gevura du deuxième Beth Amikdash. Donc le troisième Beth Amikdash sera placé sous le signe de la Tiferet, qui correspond donc à Yaakov Avinu, qui devient Israël. Ce qui veut dire d'une manière simple, c'est que ce Beth Mikdash aura des valeurs d'en haut mélangées à des valeurs d'en bas. Et par rapport à ce que j'ai dit au préalable, il y aura la notion de klal. On va comprendre ce que c'est que l'unité de la nation d'Israël et de l'unicité divine, mais on ne perdra pas pour autant l'importance des individus que nous sommes. Parce que c'est très facile de toucher une Torah klalite et de tuer les individus. C'est-à-dire que l'individu est tellement petit par rapport à cette Torah klalite qu'il sera mort. Le troisième Beth Midrash saura respecter le klal et les pratiques. Ken?
Je comprends que moi, dans le de la bougie,
Comment ça va se réaliser dans la réalité de notre vie? Mais tout simplement, lorsque nous aurons une fête, par exemple, admettons la fête de Sukkot, eh bien la fête de Sukkot, c'est une fête de très 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 grande simcha, l'individu aura lui aussi à s'acheter un beau loulav, quelque chose qui lui est propre à lui, avec un bel étrog, et Arbaat Aminim, qui sont Meudarim, et donc on va lui donner un kavod, et on va lui permettre aussi de faire les Na'anouim par rapport à la Shita que lui a envie de faire. Les filines que tu portes aujourd'hui, tu ne les attaches surtout pas, sûrement pas, comme moi je les attache. J'en suis presque sûr. Et pourtant, on met tous les deux des filines. C'est-à-dire que la mitzvah klalit va rester, mais l'expression de cette mitzvah sera différente. De la même manière, les nœuds que tu attaches dans ton talit katan, c'est sûrement pas les nœuds que moi je fais. Et pourtant, on respecte tous les deux la même mitzvah. Et ça sera donc mis en relief dans tous ces sens-là. C'est là? Quel?
Aujourd'hui, on a aussi des problèmes de synatrina, bon, de Gilou et Arayot peut-être, mais ça reste un problème aujourd'hui énorme dans l'Israël. Qu'on aurait dû réparer pendant la vallée, mais que la sauf on est là, mais encore du problème.
Quel?
Qui nous dit que c'est fini, qu'il y aura trop de temps?
Alors, comment se fait-il que nous, on nous dit que la Sinat Sinam, donc, nous a fait sortir en exil. Et aujourd'hui aussi, nous avons de la Sinat Hinam, peut-être pas avec la même envergure qu'il y avait pendant que nous étions à l'extérieur, mais quand même. Réponse, ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, nous sommes sur notre terre. Et en étant sur notre terre, nous sommes comme dans une famille. Et dans une famille, il y a des tensions, mais tout le monde vit au sein de la famille et il y a un amour intérieur. La Sinat Hinam, si elle a fait en sorte qu'on sorte en exil, vous comprenez bien qu'Akadosh Baruch Hu ne nous permettra jamais de revenir sur notre terre si cette faute n'a pas été réparée. Or, aujourd'hui, la preuve que cette faute fut réparée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous permet de revenir sur la terre d'Israël. Où est-ce qu'on peut aujourd'hui voir que la Sinat Hinam disparaît le plus à l'armée? Dans l'armée d'Israël, nous voyons qu'il y a un amour gratuit et donc que tous les degrés qui nous ont fait sortir en exil sont en train d'être réparés. Et étant donné que nous avons une règle générale qui nous dit que la Géoula de Am Yisrael, comme dit le Yerushalmi dans le traité de Brachot, elle est petit à petit, pas à pas, eh bien, dans ce domaine aussi, nous nous corrigeons pas à pas. Et il faut toujours essayer de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire ce que nous avons déjà fait, et pas ce qui nous reste à faire. Sinon, on tombe dans le dikaon. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent « Lev Chacham Mimino ». Le cœur du sage est à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand vous ouvrez un livre en hébreu, les pages que vous avez déjà lues, déjà étudiées, elles sont à droite. Donc si ton cœur est à droite, c'est-à-dire que tu t'occupes de ce que tu as déjà étudié, même s'il te reste un paquet du côté gauche, et tu te dis, mais jamais je vais terminer, c'est trop grand pour moi, eh bien, si tu es sage, tu ne vois pas ce qui te reste dans les pages de gauche, mais ce que tu as déjà acquis dans les pages de droite. Et c'est comme ça dans notre vie. Donc il faut voir que nous sommes dans une évolution et que notre amour est en train justement de se rassembler. Je vous rappelle juste un petit détail, c'est que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous étions sortis d'un seul pays, alors qu'aujourd'hui, dans la dernière Géoula, nous sortons de plus de 130 pays. Donc c'est énorme, c'est un travail de malade pour arriver à concentrer toutes ces galouillottes dans une seule et même terre, dans un seul et même état. Donc Baruch HaShem, par rapport à ce travail colossal, j'estime que nous avons très très bien avancé et nous sommes en train de réussir. Ok.
J'ai deux questions. La première, on attend de la génération le retour total de la présence divine. Mais est-ce que c'est pas un crime de la chaîne que Dieu revienne dans un monde qui est en partie détruit par l'homme, sur le niveau écologique, avec toutes les pollutions, on a détruit des milliers d'espèces, etc. Est-ce que c'est pas un crime de la chaîne? J'aiguise ma question en disant que tout processus mécanique, on parle d'un processus qui est naturel, on ne s'attend pas à un miracle que la couche d'ozone va se reformer, etc. C'est ma première question. La deuxième question, toutes les prévisions des scientifiques dans des plusieurs dizaines d'années, on parle d'une surpopulation, on vit déjà crédit au niveau des ressources que la Terre nous fournit. Donc est-ce qu'il y a un idéal d'aller à la conquête des planètes, aller manger, on parle de l'idée de manger, aller manger de notre monde et arriver aux confins de l'espace, aux confins du cosmos?
Ok. Donc la première question était, est-ce que ce n'est pas une profanation du nom d'Hachem le fait que Akadosh Baruch Hu revienne sur Terre, puisque c'est ça en fait la notion de Géoula, dans une planète où l'homme a détruit beaucoup de choses? Réponse, le chiloul du nom d'Akadosh Baruch Hu, le plus grand qui puisse être, c'est justement d'avoir peur qu'Akadosh Baruch Hu revienne sur la Terre. Autrement dit, ceux qui ont peur d'une Géoula, c'est parce qu'il ne croit pas que le monde soit capable d'être un cli à la lumière divine, comme s'il disait « Akadosh Baruch Hu est trop grand pour ce monde qui ne vaut rien ». Et ça, c'est le Chilul Hashem. Et donc pour corriger cela, c'est d'ailleurs la faute des Meraglim, qui disait que ce n'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu, dans son infinité, descende gérer des problèmes minables de l'humanité avec tous les dégâts. Et nous, nous disons le contraire. Akadosh Baruch Hu, nous, le peuple d'Israël, nous avons été façonnés, créés pour dévoiler son nom. Eh bien, le fait de faire venir ce nom sur terre, eh bien, ça va compléter et raviver et ramener à la nature normale et préalable tout ce qui a été endommagé. Et c'est pour ça que lorsque le Rambam dit « Olam kemin hago noheg » au moment de la Géoula, le monde va être comme sa nature, eh bien, il ne parle pas seulement de la nature telle qu'elle est maintenant, mais dans la nature qui va revenir à sa vraie nature. Car si Akadosh Baruch Hu descend, entre guillemets, se dévoile dans notre monde, et que les choses restent telles qu'elles, eh bien, ça ne montre pas effectivement qu'Akadosh Baruch Hu met un seder, fait de l'ordre dans ce monde. Or, nous pensons, nous croyons, nous avons une émouna, nous sommes fidèles à cette émouna, qu'en se dévoilant sur terre, Akadosh Baruch Hu guérit aussi tous les maux M-A-U-X qui ont été causés à cette planète et à tout le reste. Quant à la deuxième question, est-ce que par la surpopulation, comme les scientifiques le disent aujourd'hui, est-ce qu'il nous arrivera d'aller voir d'autres planètes justement pour manger et absorber encore d'autres choses pour nous élargir? Il est possible que certaines choses se fassent de cette manière-là, puisque la Terre est le centre. Mais autour de ce centre, il y a encore des éléments, étant donné que l'homme a été créé pour manger, eh bien, consommer n'est pas seulement manger, mais savoir plus, connaître plus. Je ne sais pas et je ne peux pas savoir. Et le Rambam dit qu'on ne sait pas comment les choses vont être avant qu'elles ne soient. Donc je ne peux pas jeter des choses en l'air. Tout simplement, je peux dire qu'effectivement, notre da'at va tellement s'élargir qu'on va pouvoir consommer d'autres notions qui nous permettront en fait d'élargir complètement la trame de notre sagesse. Et donc la sagesse divine, effectivement, va grandir. Déjà, Jérusalem va s'élargir jusqu'à Damas. Ça veut dire qu'en réalité, il y aura une expansion de la connaissance divine sur tout l'univers entier. Quel?
Pour moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on aura le troisième temps, en fait.
Tu demandes une date.
Non, mais je veux savoir, est-ce que c'est dans 6 000 ans? Je ne sais pas, il y a beaucoup de...
Ok. Alors, les sages nous disent d'une manière simple que la création du monde a été faite pour 6 000 ans. Cette création est marquée dans le mot « Bereshit ». Les Chachamim nous disent « Bara Shit Alfe Shanim ». C'est-à-dire la Gemara dans le traité de Sanhedrin nous dit que le monde, il a un temps limité. Et c'est pour ça qu'on appelle l'après de ce degré-là la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire la fin des temps? Ça veut dire que même la notion de temps telle que toi tu en parles aujourd'hui va changer complètement. Donc on n'aura plus du tout un rapport au temps tel que nous l'avons aujourd'hui. Comme si le temps allait se rétrécir. Peut-être que tu le ressens déjà. C'est-à-dire que les distances entre les causes et les résultats vont devenir de plus en plus proches. S'il y a 40 ans, quand je faisais quelque chose, j'avais une conséquence 20 ans plus tard, étant donné que je suis dans une pyramide qui monte vers la pointe, et dans la pointe, la source et le résultat se touchent, eh bien, au fur et à mesure que nous montons, vous voyez que la distance entre la source et le résultat, entre la cause et l'effet, sont en train de se rétrécir. Et donc, je ne peux pas te donner une date, mais c'est sûrement à la fin du sixième millénaire, en tout cas, c'est ce que le Ben Ishraï dit, c'est ce que le Ari Akadosh dit, et c'est ce que tous les grands grands de ce monde disent, que la construction du Beth Amigdash se fera à la deuxième moitié du sixième millénaire, donc nous y sommes. Qu'est-ce?
C'est-à-dire les
Fatma Akadah,
ils ont donné des dates,
ils ont donné des dates
par rapport à l'Eslaut.
ça ne va pas plus se passer une autre date que cette date-là.
Bien. Alors, quelle est ta question?
Ma question, c'est-à-dire, imaginez maintenant le Batamigdash, il y a une date précise, c'est-à-dire que nous, on ne pourra pas vivre ce moment si on n'est pas cette date. Ça...
Non, ça ne marche pas comme ça. Les dates des fêtes que nous vivons ont été prévues au moment même de la création du monde. Par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire il a placé des potentiels dans l'espace-temps. Si nous, les hommes, nous sommes capables d'attraper au vol une certaine force, eh bien on peut savoir fêter une fête qui existe depuis le début des temps dans cette date en question. Mais si on rate cette chose-là, eh bien, la fête en question peut devenir Chas v'Shalom un jour de deuil. Comme Tisha B'Av. Tisha B'Av est censé être le jour où on entre en terre d'Israël, où on prend la décision d'y entrer. Et si tu ne sais pas prendre l'expression en vol, eh bien, tu rates cette expression, cette journée-là va devenir Chas v'Shalom une Shoah. La même chose au moment où le peuple d'Israël doit rentrer sur sa terre, s'il prend la décision de rester en exil, eh bien, Chas v'Shalom, il y a une Shoah. Et donc, il faut faire très très attention avec tout ça. Le peuple d'Israël a une prophétie intérieure, qui lui est intrinsèque. Et ça veut dire que toutes les fêtes qu'un jour nous allons fêter, que nous allons vivre, ce sont des potentiels qui existent dans le temps, c'est à nous tout simplement de les habiller. Je vous ai déjà dit au cours du dernier cours que le Chida dans Midbar Kdemot nous dit que les fêtes que nous vivons aujourd'hui, par exemple de Tishrei, c'est pas normal que nous les vivions en un seul mois. Comprenez, c'est tellement un après l'autre, que tu te dis, mais attends, c'est quoi? Tu as Rosh Hashanah, 10 jours plus tard Yom HaKippourim, 4 jours plus tard Chakasukot, ça se termine pas. Eh bien, l'Okhida nous dit que ce n'était pas l'ordre premier. Que Abraham, Yitzhak et Yaakov ne vivaient pas les fêtes comme nous aujourd'hui. Tammuz, c'était Rosh Hashanah. Le 17 Tammuz, c'était Rosh Hashanah. Et c'est comme ça que Abraham fêtait Rosh Hashanah, le 17 Tammuz. Pas comme toi aujourd'hui. Yom HaKippourim, c'était Tisha B'Av. Alors qu'aujourd'hui, le Tou B'Av, pardon. Le mois de Tishrei que nous avons aujourd'hui, il y avait Elul avant, Chagasukot. Chagasukot aujourd'hui, il est au mois de Tishrei. Avant, c'était au mois de Elul. Et qu'est-ce qui nous reste dans le mois de Tishrei, selon l'ordre premier? Seulement une fête, Shmini Chagaseret, Simchat Torah. Pourquoi ça a été décalé dans le temps? Parce que l'homme ne dégrade pas seulement l'univers, les animaux, les planètes, et toutes les infrastructures naturelles de la Terre, il va dégrader aussi la notion de temps. Et comme Israël est là pour sanctifier le temps, Mekadesh Hazman, eh bien, à mon avis, les choses vont revenir à leur norme, à leur normal, au moment donc de la Géoula Shlema. Donc il faut s'attendre à beaucoup de changements. Tiens. Quel?
D'accord.
Ok. Alors, tu me dis que la vitesse est un danger. Je te dis que oui, et je te dis que non. En fait, ça dépend de toi. Tu peux être très harif et rapide dans ta pensée, parce que tu te touches au niveau de la Neshama. Est-ce que dans ta Neshama, il y a du temps?
Non.
Donc les décisions prises par la Neshama, elles sont instantanées. Alors qu'il te faut du temps pour que cette valeur de la Neshama passe au corps. Je vais t'expliquer d'une autre manière. On est déjà sorti d'Égypte à vie, au niveau de la Neshama. Notre Neshama est sorti d'Égypte complètement. Mais il nous a fallu maintenant 4000 ans pour sortir au niveau corporel de l'exil d'Égypte. Alors ce qui se fait au niveau de ta Neshama, c'est très rapide. Donc tu peux me dire, est-ce que la Neshama se trompe parce qu'elle se précipite? Pas du tout. Parce qu'elle est tellement liée au divin que ça marche tout seul. Quand tu bois du lait, pourquoi tu peux manger de la viande immédiatement après? Alors que quand tu manges de la viande, tu dois attendre 6 heures. Ben, tout simplement parce que le lait est tellement proche dans sa caractéristique de la Neshama. Parce que qu'est-ce que c'est que le lait? C'est la vie. Tu aides la vache à mieux vivre. Le lait ne s'abîme pas. Même quand il tourne, ça devient du fromage. Donc il est tellement lié à la Neshama que lorsque tu manges du lait, il est absorbé immédiatement. Donc tu ne dois même pas attendre. Alors que quand tu manges de la viande, c'est l'antithèse même, parce que tu dois tuer l'animal, tu as du sang, la viande si tu la laisses, elle pourrit. Eh bien, là tu dois attendre 6 heures, parce qu'il y a 6 degrés entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ce qu'on appelle la Bina et la Malkout, qui a la lettre Vav, entre le premier Hé du nom d'Hachem et le dernier Hé. Eh bien, le Vav, c'est les 6 heures que nous devons attendre. Quel? Alors aujourd'hui c'est la Iloula du Harizal, Alav Shalom, Srutot Agen Alenu Amen. Le Harizal, en plus de ça on a directement, donc le Rav Naon arrive de Tzfat, donc il nous passe le bonjour du Hari Akadosh. Et je suis content que le Hari lui ait demandé de me passer le bonjour. Baruch Hashem, je ne savais pas que j'étais aussi relié. Ken. Donc, le Rav Naon, je n'avais pas de doute. Mais moi, Ken, j'avais des doutes. Vous concernant, je n'ai pas de doute non plus. Mais Baruch Hashem. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Neshama qui est descendue dans ce monde? Bien, le Hari Akadosh, c'est une Neshama spéciale qui est descendue dans ce monde il y a à peu près 500 ans. Et qui est venu justement pour décoder, pour déceler, pour amener à la dernière génération la nourriture qui lui est nécessaire pour la Géoula Shlema. Autrement dit, le livre clé du Harizal, c'est le Et Chaim. Qu'est-ce que c'est que le Et Chaim? Eh bien, c'est celui qu'on a raté au moment de Adam Harishon. Lorsque Adam Harishon devait manger de ce Ephraim, mais qu'il n'a pas mangé parce qu'il a préféré manger du Et Hadarat, eh bien, à la fin des temps va venir une Neshama immense, comme celle de Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, Alav Shalom, le Hari Akadosh, et va nous donner la possibilité de remanger de cet arbre de la vie. Et il nous dit que justement on arrive à une époque où si tu ne manges pas aujourd'hui de cet arbre, tu perpétues en fait l'exil. Donc le Harizal est venu pour nous faire accélérer le processus de Géoula à la fin des temps, et il nous demande consciemment et sciemment d'étudier les secrets de la Torah, en tout cas de placer des secrets de la Torah dans notre étude. Et tout ce qu'a écrit le Harizal, ça vient du Zohar HaKadosh. Dis-le. Ken.
Juste, il faut accélérer parce qu'on est à la fin des temps, mais on sait quand même qu'il y a des bases à savoir avant d'étudier la Kabbalah, c'est-à-dire que les Juifs ne pourraient pas tout faire derrière et derrière pour en précipiter et accélérer.
Alors, les bases qu'il faut savoir avant la Kabbalah, c'est au niveau de la personne, effectivement. Quand une personne naît, elle a 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Mais là, je vous parle de génération aussi. Il y a une première génération, un premier millénaire, un deuxième millénaire, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième millénaire. Donc nous sommes aujourd'hui au niveau des millénaires, comme une personne adulte qui a déjà étudié toutes les parties de la Torah et à qui il manque de compléter la dernière partie, c'est-à-dire le dessert, on va dire, qui est en réalité les secrets de la Torah. Donc ça ne se mesure pas seulement au niveau de l'individu, est-ce que lui peut ou ne peut pas. Effectivement, il y a des neshamot qui sont faites pour ça et beaucoup plus ouvertes à ce degré-là. Si tu ne fais pas partie de ces neshamot et tu ne ressens pas la chose, eh bien, tu continues d'étudier ce que tu peux. Le Rav Kook, Alav Shalom, nous dit quand est-ce qu'il faut étudier cette étude de la Kabbalah, quand aucune étude ne te donne plus une suffisance et que tu te dis « mais ça ne me suffit pas ces réponses, j'ai besoin de goûter plus, d'aller plus loin », eh bien, ça veut dire que ta neshama est prête à ce genre d'études, et lui-même dit qu'il est très important aujourd'hui pour vivre à cette époque, pas seulement pour accélérer le processus, mais pour vivre à mon époque, parler un langage qui est approprié à cette époque. Et le langage d'aujourd'hui, c'est le Zohar à Kadosh. Chachamim, Hizaharu Bedivrechem. Mettez du Zohar dans vos paroles, ça ne veut pas dire qu'on va commencer à voler. Quel? Ça c'est seulement au cinquième cours. Je rigole. Top. La mitzvah de la Torah, c'est de mettre des tzitziot bleus. Ptil tsechele. Si, au moment où je vis, il y a une possibilité de revenir à la source de la Torah en trouvant le chilazon et en extrayant son sang, qui va devenir à la lumière du soleil bleu comme le tsechele, je ne vois pas pourquoi je ne reviendrai pas au trellet, d'autant plus que même si ce n'est pas le vrai trellet, tu n'as pas fait une avéra en mettant du trellet sur cette itiote, donc ce sera au maximum considéré comme du blanc. Donc effectivement, si j'ai aujourd'hui au niveau scientifique la possibilité de revenir à la vraie mitzvah de la Torah de Horaïta, au moins une fois je vais faire la bracha de me mettre un petit trellet pour avoir au moins fait une mitzvah midoraïta et pas seulement une mitzvah des rabbanins. Donc effectivement, je le fais. Bevadaï. 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 Si tu me demandes à moi, c'est ce que je fais.
D'accord, oui. Il y a des
rafles qui disent non. Mais tu m'as demandé à moi. Je ne peux pas répondre au nom de tous les rabbanins.
Pourquoi les rafles de nos jours, ils ne font pas un salé de rine?
Il faut leur demander. Pourquoi les rabbanim d'aujourd'hui ne forment pas le Sanhedrin? Il y a des tentatives de reformer le Sanhedrin. Le Rav Kook lui-même voulait reformer le Sanhedrin. Ça prend du temps. Ça fait partie du processus de Géoula, pas à pas. Mais on y arrivera. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup, beaucoup dans l'histoire, et il n'y a pas plus loin que quelques années. C'est en train de se mettre en place. Bezrat Hashem, les choses doivent se disséquer, sortir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nœuds que 2000 ans d'exil nous ont étouffés, et les hâtes, les choses vont revenir en place, et je pense que Bezrat Hashem Bekarov, nous aurons un Sanhedrin. Ok? C'est évident. Ok? Je voudrais
revenir en arrière sur les changements de Khagim par
rapport à la Bézéda. Ok?
C'est pas tellement simple de comprendre que
c'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, c'est quelque chose qui est l'obarou, qui n'est pas naturel, qui est maladif, c'est-à-dire quelque chose qui devait descendre dans un autre degré. C'est exactement la définition de l'exil. Plus que ça, même un prophète, pendant l'exil, peut se tromper dans ses paroles de prophétie, tellement il n'entend plus Akadosh Baruch Hu d'une manière claire. Zelo Hashou. Ça veut dire que, justement, la période de l'exil nous a, en réalité, détérioré, c'est ce que je t'ai dit, l'espace-temps et l'homme, par définition. Je vais te poser une question. Quand tu fais le bilan de ton année, et que tu veux réparer, il est plus logique de faire un jour du bilan de ton année au début de l'année ou à la fin de l'année? À la fin de l'année. Alors pourquoi les 10 jours de Tshuva sont déjà dans l'année prochaine? Tu comprends? Non, ça c'est le Ramak, c'est plus le Chida. Rabbi Moshe Cordovero, Alav Shalom, il pose une question. Comment se fait-il que je fasse Tshuva l'année prochaine sur les fautes de l'année d'avant? Et il dit, ça répond à la question, ce qu'a dit le Chida dans Midbar Kedemot, qu'en réalité, le véritable temps de la Tshuva, c'est à la fin de l'année, et pas comme on le vit aujourd'hui. Alors pourquoi ce décalage? Mais tout simplement, encore une fois, parce qu'il y a un teko. Un teko, c'est quand il manque la lettre Noun. Et le Noun, c'est la Bina, le discernement. C'est-à-dire on n'a plus le discernement, donc on est dans le teko. Le jour où on ajoutera le Noun à teko, on sera dans l'Amha Sikun. Et ceci ramènera les choses dans leur vraie valeur. C'est tout. Toi aussi, tu ne sais pas aujourd'hui voir si je te donne un morceau de viande, s'il est cachère ou pas. Tu regardes la Seouda. Tu ne devrais pas regarder la Teouda. Tu devrais rentrer dans un restaurant et faire comme ça. Kasher la Mahadrin, Rabbanou, ta. Tu devrais te lever d'un sommeil et te dire, oh, Shabbat, Rosh Chodesh. Shabbat et Rosh Chodesh. Tu sens. Toi, si ce n'est pas marqué dans le calendrier, tu ne comprends rien. Si on ne te dit pas que Tisha B'Av, c'est Shabbat prochain reporté à dimanche, si je te lève comme ça d'un grand sommeil, tu ne sais même pas où tu es. Ce n'est pas normal. Abraham Avinu n'avait pas de calendrier. Il se levait le matin et il disait, aujourd'hui, c'est Pessah. Tu comprends la différence? On a perdu la nature. Nos sens ne marchent plus. Pour acheter une bagnole aujourd'hui, on te fait montrer son aspect extérieur, la couleur, le machin. Dedans, il y a un tarnégol qui... Tu vas l'acheter, au bout de 3 mois, tu en as marre, tu dis, c'est quoi cette vie que j'ai acheté? Tu comprends rien. Donc, la nature a été endommagée pour qu'on revienne à reprendre nos chushim bri'im, nos véritables sens, qui sont au chiffre, au nombre de 5. Tu sais qu'à un moment donné, moi, je pouvais sentir ou parler avec mon nez. Tu peux parler avec ton nez? Tu peux sentir avec ton œil? Mais c'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Vekol ha'am ro'im et takolot. Ils voyaient des sons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis arrivé dans un degré où les sens étaient tellement unifiés que tout était là. Adam Arishon, quand il touchait un objet, il avait toute l'information. Aujourd'hui, tu vois ça dans un film de science-fiction. Toute l'information de l'objet qui passait en lui dit ça, ça s'appelle Phara, c'est une vache. Et c'est comme ça qu'il a nommé la vache. Tu sais ce que c'est nommer quelque chose? Mais c'est incroyable. Ça veut dire savoir tout l'ADN de la vache pour lui donner les 4-3 lettres qui correspondent à son nom, Phara. C'est énorme, mais c'est lui qui a donné les noms aux choses. C'est ça l'essence Brihim. Quand tu arriveras à ce degré-là, tu seras téléporté. Tout ce que tu vois dans tes films, eh bien c'est exactement là où nous devons être. Le Arizal se téléportait avant Harry Potter. Quel? Ben, c'est-à-dire, quand on donne un nom à son fils, ça, normalement, ça crée à la névoie. Okay. Au roi HaKodesh, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de venir te donner l'essence de cet enfant et là où il doit être. Chanoch Lanar Alpidarko. Même au niveau de donner son nom. Ça va d'accord.
Comment on arrive, pour rebondir sur ce que vous avez dit à Moudan, comment on arrive
au retour
à découvrir?
Ah, il y a fait. Comment est-ce qu'on arrive à retrouver nos sens et à guérir de ce mal? Bien, tout simplement en devenant de plus en plus fidèles aux valeurs de l'infini. Et comme Israël, nous sommes le vecteur de l'infini, plus je vais faire passer à travers moi de l'infini, plus je deviens limpide. C'est-à-dire que je vais jouer mon rôle de ne plus arriver à des conclusions humaines, mais de plus en plus je vais comprendre et entendre et vivre Ephraim, ce qu'Akadosh Baruch Hu me dit. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de rentrer dans une Mishada pour voir une Teouda. J'ai plus besoin, je vais aller plus loin, c'est pas très éducatif, d'ouvrir un livre de Torah. Je devrais savoir toute la Torah intuitivement. Comme Abraham Avinu, il avait 2 reins, qui était comme 2 rabbanim qui lui enseignaient la Torah. J'ai pas besoin d'ouvrir des livres. Les livres, c'est des ramasses poussières. J'ai des livres parce que je ne comprends plus rien. Les livres se sont multipliés parce que j'ai oublié mon essence. Vous comprenez? Plus on était proche du début, moins il y avait de livres, on est d'accord?
Okay.
Torah Shebichtav, c'est une Torah qui a été écrite. Mais avant d'être écrite, elle est. Shabbat, quelqu'un m'a dit, ah, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Je dis non, c'est parce que c'est vrai que c'est écrit. C'est pas l'inverse. Donc, en faisant de toi-même un sinor, dit le Zohar, sinor, hafor, sinor, bekabel, rasson. C'est-à-dire, tu prends les lettres de sinor et ça devient rasson, tu deviens un vecteur du rasson d'Akadosh Baruch Hu à travers ta vie. Et là, tous tes sens se guérissent. Et tu deviens en fait naturellement fidèle, comme si tu entendais ce que ton rave allait répondre à telle et telle question, même quand le rave n'est plus là. Si le Rav était là, il aurait dit pour telle question comme ça. Comment tu sais? Tu as tellement vécu avec ton Rav qu'en réalité tu connais ses réponses. Eh bien, il faut vivre avec le divin, et c'est ce qu'on appelle l'Emouna. Amen. Et kucha berichu, et arachim shelo, je dois faire en sorte de faire véhiculer par moi toutes les valeurs divines, et là, tous mes sens guériront. Quel? La Brit Mila.
Oui, mais
d'accord.
On met ça dans la terre, tout à coup,
on met ça dans la terre. On met le prépuce dans la terre. Parce que si je parle comme ça aux caméras, ils vont me dire qu'est-ce qu'on met dans la terre, j'ai pas compris. Oui. Ok. D'accord. Quand on fait une Brit Mila, on met le prépuce, c'est-à-dire la orla, on la met dans la terre. Tu demandes pourquoi, c'est ça?
Non, mais après,
ils m'ont dit qu'on met ça dans le couscous. Qu'est-ce que j'ai pas compris? J'ai pas compris. Oui, il y a... C'est un degré qui vient de la Kabbalah. Il est écrit dans la Torah, « Venachash afar lachmo ». Le nachash, le serpent premier, qui est l'intelligence humaine, quand elle n'est pas gérée par l'intelligence divine, eh bien, elle se concentre dans cette partie du corps du bébé jusqu'à 8 jours. Ça veut dire pendant 8 jours, il y a une circulation du mal dans tout le bébé qui se concentre dans cette partie du prépuce du bébé. C'est pour ça qu'on appelle ça, dans la Haggadah de Pessah, Shmona Yeme Mila. Ça veut dire Shmona Yeme Mila. Il y a un seul jour de Mila. Il y a 8 jours de Mila, parce qu'il ne lui reste plus rien si tu coupes tous les jours. Donc en réalité, ça veut dire Shmona Yeme Mila, c'est que pendant 8 jours, il y a une circulation du mal pour que ce mal se concentre dans cette partie. Et Akadosh Baruch Hu, par la Torah, qui est une prophétie, nous révèle où se trouve cette partie. Et toi, tu viens, tu coupes tout le mal de ce bébé. Donc déjà, tu le guéris à 2 milliards de pourcents. Tu ne te rends même pas compte. Et ce prépuce-là, qui s'appelle la Orla, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Ra'al, tu dois les mettre dans la terre pour que justement, le mal revient à sa source, à lui. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Tout simplement. Okay. La source du mal, c'est justement cette matière. Donc je redonne au mal le degré et je le guéris en faisant ça. Parce que en hadvarim nim takim ela beshor sham. Tous les dinim se radoucissent seulement s'ils repartent à leur propre source. Donc si je fais ramener ce prépuce à sa source, c'est plus le nachash. Il devient guéri, j'ai adouci tous les dinim. Et du bébé, et de la famille, et de ceux qui sont venus faire la simcha de la Brit Mila. C'est pour ça que c'est important. À part ça, il y a sucer le sang, qu'on appelle la touffe d'ama. Donc il y a Mila, c'est la coupe pure. Okay. Il y a la pria qui est retournée pour découvrir le yud. Et à touffe d'ama, c'est sucer pour commencer à faire véhiculer dans ce bébé des éléments de vie qui vont faire de lui comme quand tu veux aspirer un aquarium, tu veux passer de l'eau d'un degré à un autre, tu aspires et tu fais passer. Cette aspiration fait circuler à l'intérieur du corps du bébé durant toute sa vie, qu'est-ce du divin. Le vin et la truc, ça attire, l'un attire l'autre. C'est pour ça qu'on boit du vin pour faire cette métita. Matam min et mino venero. Moi, je suis obligé de répondre à ce qui est hors sujet.
Oui.
Ok. Ok. En fait, tu te poses la question, comment l'infini rentre dans le fini? Et en fait, à l'infini. C'est tout. C'est-à-dire que jamais tu seras à Kadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, tu tout simplement, tu ne pourras jamais être complet, mais tu vas élargir ton être à faire rentrer de plus en plus d'infini. C'est tout. Sans jamais que l'infini devienne toi. Toi, tu ne vas pas être infini. Tu seras toujours fini, tu seras toujours une création, tu seras toujours créé. Tu ne vas pas devenir Akadosh Baruch Hu. Il y a de l'infini en nous. C'est tout. Il y a fait. Il y a d'autres mots. Delet marchavat fisabekla luklal. C'est la définition du Zohar. Qu'aucune pensée ne peut saisir. Donc tu as qu'aucune pensée ne peut saisir en toi. Ça s'appelle ta neshama d'ailleurs. de la même manière que tu ne la connais pas, tu ne sais même pas ce que c'est, mais elle est en toi, eh bien, au fur et à mesure que tu lui donnes de la place dans ton corps et dans ton être, eh bien, elle continue. La Neshama, ce n'est pas un bloc qu'on a pris là-bas et qu'on a mis dans ton corps. Elle continue, car un rayon au-dessus de ta tête qui fait goûter des gouttes de Neshama de la source vers toi. Et c'est à l'infini, ça continue. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'un chien te voit dans la rue, il doit avoir peur de toi. Sauf s'il n'y a pas un bon écoulement. Donc il croit que c'est un autre chien. Quel?
Alors, vous pouvez revenir à la notion d'Abraham qui apprend de ses clayotes.
Quel?
Pourquoi c'est d'après cet organe-là, quel? Le cœur,
d'accord. Clayot, au singulier, cli. Claya. Ça veut dire que l'homme peut, à l'intérieur de ses clayotes, recevoir, comment tu crées Claya, kol yutke. C'est-à-dire, tout, mais des kol, dans la Kabbalah, yesod. La sphira de yesod, c'est kol, kaflamet, 50, parce qu'elle régit les 5 sphirot, c'est cette vouratiferet, netzaferot, qui se rassemblent dans le yesod, et qui dévoile le yud et le he. Donc le mot Claya, qui veut dire les clayotes, c'est toute l'essence de la personne. D'ailleurs, au niveau médical, au moment où tu es fatigué, la dernière partie de ton corps qui t'aide en fait à vivre, ce sont les clayotes. Quand tu commences à avoir mal aux reins, pose-toi vraiment des questions et va voir un médecin. Parce que ça veut dire que tu es arrivé au bout de ta fatigue. Et ça, c'est pas bon. C'est un mouvement de reins qui nous fait avancer dans le monde. Même au niveau des sports de combat, quand vous donnez un coup de poing, c'est pas le poing qui frappe, c'est les reins qui avancent. D'accord ? Tu avances de tout ton corps. Ok.
Un chien a créé des maladies. Et il a aussi créé
des guérisons.
Des guérisons.
Ok, et alors ?
Mais je veux dire, si
c'est quoi la question ?
Je ne pas des guérisons, je sais pas.
La guérison existe avant la maladie. De la même manière que la tshuva existe avant la faute. Sahib. Nahon ? Il n'existe pas des maladies qui n'ont pas de guérison. C'est comme si tu me disais qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Ça n'existe pas. S'il n'y avait pas des réponses, il n'y aurait même pas eu de questions. Donc, tout est guérison au départ. La maladie, c'est tout simplement un manque de guérison. Et la guérison étant un ordre, donc toutes les maladies viennent d'un désordre, tout simplement. C'est-à-dire, au moment où tu reviens dans l'ordre, il n'y a plus de maladies, les maladies n'existent pas.
L'état normal, c'est
la guérison. L'état normal, c'est la guérison.
L'état normal, c'est la santé.
C'est la même chose, c'est ce qu'on appelle la guérison.
Et les maladies mortelles, c'est
la première, le premier degré. Kadosh Baruch Hu n'est pas malade.
Il y a des maladies, il faut mourir.
Aujourd'hui, parce que tu es post-traumatique. C'est-à-dire, on est après la faute du premier homme. Mais dans la racine, l'homme ne devait pas mourir. Je rappelle que l'homme devait vivre. C'est seulement parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance qu'il est tombé dans tous ces degrés-là. Ça s'appelle la mort. En hébreu, chol, cholé, halal. C'est-à-dire, d'abord il est chol, après il est cholé malade, après halal il est mort. Donc c'est la même racine.
Comment la Torah se situe sur les maladies génétiques et psychologiques?
Okay. Tout simplement, en faisant référence à des Gilgoulim, c'est encore une Torah Shlema, du Harizal. On ne peut pas aujourd'hui considérer, quand tu vois un bébé, que c'est un bébé que tu viens, qui est limité dans ce que tu vois aujourd'hui. Ce bébé-là, il est revenu déjà 250 fois. Donc c'est 250 corps qui ont servi à une seule et même Neshama. Donc toi, tu vois en fait un extrait. C'est comme si tu rentrais dans Dallas, à l'épisode 256, tu dis, mais c'est quoi ce charabia ? L'autre il a trois femmes, l'autre il a un fils de l'autre truc, l'autre il lui sort un machin, sa femme elle est sous l'arbre, l'autre elle est... Tu comprends rien parce que tu ne vois pas l'épisode en entier. Quand tu verras le film en entier, tu comprendras pourquoi cet enfant il est comme ça aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a dit dans la paracha de Mishpatim. Ve'elleha Mishpatim asher tasim lifnehem. Tant que tu ne vois pas un Mishpat et que tu vois que des lettres, tu es paumé. Ah, ils ont déjà vécu, ils sont déjà partis, et la seule partie de la Neshama qui n'a pas encore été corrigée est revenue maintenant pour corriger. Donc imagine-toi que c'est un bout de papier, voilà, ça c'est la Neshama complète du départ. Chaque fois elle descend dans ce monde, dans un corps, voilà ma main, j'ai corrigé seulement ça. Eh bien, seulement ça va partir dans une armoire en haut et va redescendre tout le reste dans un deuxième corps. Tu as compris ? Ce corps s'appelle un gouffre. Quel?
Si on est
cohérent avec la véritable essence des choses. Sinon, on se plante. On tire un peu à côté.
La question que j'avais posée par rapport à ça, c'est que les Khachamim, ils donnent aussi les années.
Quelle?
Donc là, c'est pas qu'on peut faire le temps, c'est obligé de faire le temps à 7 années. Il n'y a plus trop de libre arbitre par rapport à ça.
Il y a. Notre libre arbitre, il est à l'intérieur d'un jeu qui est déjà existant. D'accord? C'est-à-dire, il y a une volonté divine. Tu peux pas faire en sorte de changer le plan du divin. Donc, au niveau du peuple d'Israël, nous n'avons pas de libre arbitre parce qu'on est déjà dans un cheminement, on n'a pas le choix. On nous a braqué. À Kadosh Baruch Hu nous a braqué. Amzou Yassar Tili. J'ai rien fait pour ça. Mais au niveau individuel, toi, tu peux sortir du jeu. Maintenant, tu as envie d'aller là-bas, aux Bahamas, et fumer des cigares toute la journée, tu t'en fiches complètement. Ni Mahon Meir, ni Mahon Abbas. Voilà. C'est tout. Tu seras sorti, toi, du jeu, mais le jeu continue.
Parce que vous dites que par rapport aux efforts, par exemple, le déterminage, c'est pas pour l'obstant, c'est pas pour la...
Non. Non. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a des limites. Dans tout ce grand jeu, il y a des limites. Et c'est avant 6000 ans. Non, mais il y a des comptes qui sont plus précis que ça, c'est-à-dire que chaque heure dans ce compte-là, c'est 42 ans chez nous. Donc à chaque fois que 42 ans passent et quelques mois, il y a un changement. Et donc on est à la veille de Shabbat, au moment même où on est déjà sorti du mikvé. Donc ça ne va pas tarder. Ça peut se passer d'ailleurs par un élément naturel, un tremblement de terre. Okay, par exemple. Okay. Attends, il avait une question avant.
Juste, je reviens pour les maladies. On dit que...
Tu n'es pas obligé, hein, mais...
Non, voilà.
On dit que moi, j'ai du mal à dire.
Est-ce que c'est génétique, les maladies? De toute façon, c'est Hachem qui décide.
D'accord. C'est toujours Hachem qui décide, mais il y a une structure humaine qui a des causes et des résultats. Si j'ai fabriqué une machine à laver, et je te demande d'appuyer sur tel et tel bouton. Mais toi, tu dis, non, moi, j'en ai rien à faire. J'appuie sur tous les boutons, ça doit marcher. J'en ai rien à faire. Mm-hmm. Ben, tu vas casser la machine. Alors moi, j'ai fabriqué une machine qui marche, mais toi, tu appuies sur n'importe quel bouton. Donc, il y a des conséquences aussi au niveau de l'homme. C'est bien? Quel?
Quel?
On est dans le dernier Gilgoul de tous les temps, c'est-à-dire on est dans la Sphira de Yesod. Ce qui passe dans la Sphira de Malchut, on est à la fin. Quel? C'est les épreuves qui rassemblent toutes les épreuves qu'il y a eu pendant tous les temps et qui se concentrent aujourd'hui dans tous les éléments que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes dans ce monde-là. Si quelqu'un a la chance d'être à votre place en train d'étudier la Torah, c'est énorme par rapport à quelqu'un d'une autre génération. Parce qu'il y a tellement d'attirance à l'extérieur pour faire en sorte que tu ne sois pas là. Okay. D'ailleurs, regarde combien de monde il y a dehors et combien vous êtes ici. C'est pas évident. Donc c'est une grande chance, il faut dire à Kadosh Baruch Hu merci de nous avoir donné cette place ici. C'est vrai. Mais toutes les épreuves de tous les temps sont rassemblées. Nous sommes, n'ayez pas peur, ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est vous. Vous êtes revenus encore une fois en Gilgoul. Okay.
Je disais une fois que toutes les personnes nées après 1967 ont des
choses nouvelles. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Guest. Ken, Zichrono Libracha, Zechat Sadik Vekadosh Libracha, que les Neshamot qui sont nés à partir d'une certaine date, sont des kabbalistes de notre époque, selon des comptes kabbalistiques, sont de nouvelles Neshamot, c'est-à-dire des Neshamot qui n'ont pas été là en fautant et en revenant, c'est d'autres degrés.
Les épreuves qu'on a maintenant, c'est quoi?
Ce sont des épreuves qui sont dans la plus haute des classes, c'est-à-dire comme des petits détails à réparer. Ben, tout le reste a déjà été réparé. On te demande aujourd'hui, comme disait un jour le Rabbi Lubavitch, juste à frotter les boutons de tes vêtements pour les faire briller. C'est les finishes. Non. Personne ne dit une vraie date. On n'a pas le droit de dire des vraies dates. Pas parce qu'on n'a pas le droit de dire des dates, parce que tout simplement, les gens tombent dans un dikaon qui ne comprennent pas exactement comment ça se passe. Mais il n'y a pas de date. Tu comprends qu'on est en plein dedans. Si tu me dis, est-ce que le Mashiach est venu Pessah dernier, je te dis oui. Il est venu avec la couche qui correspond à cette année. Et aujourd'hui aussi, pas seulement fait ça. Aujourd'hui, il y a une couche messianique qui est descendue sur terre. Ne serait-ce que par notre cours. C'est ça, Adem? C'est ma fille? אני יכול, אבל מה אתם רוצים?
Vous avez une explication pour justifier l'exemple que vous m'avez fait tout à l'heure avec Manishama et ce que vient de dire Chaim, qu'on est des âmes nouvelles.
Est-ce que j'ai une justification de ça?
Oui, parce que c'est-à-dire que...
Tu as l'impression que je l'ai inventé comme ça, quoi.
Non,
c'est quoi?
Mais rallier ça avec ce que vient de dire Chaim,
oui.
Que du coup, si tous ceux qui sont nés après ce concept sont des âmes nouvelles,
okay.
C'est-à-dire que si, comment alors du coup, quelqu'un peut être atteint d'une maladie génétique ou psychologique, en disant qu'en fait, c'est parce qu'il revient.
Quel?
Et vu que...
Très très bonne question, très très bonne question. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, je pense aussi qu'il y a des méchamotes qui doivent juste venir pour partir, pour compléter deux ou trois petits trucs, même si ce n'est pas par rapport à elles, mais par rapport aux gens qui sont à côté. Il se peut que le papa que tu as aujourd'hui était ton fils, avant. Tu comprends? Donc comme il n'a pas su t'éduquer, il est revenu inversé dans le fils et la maman. Vous connaissez Anaël, Zichrona Livracha? Vous avez entendu parler du livre de Anaël? Vous n'avez jamais entendu parler d'elle? C'est une petite fille autiste, dont j'avais un kécher très 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 proche avec elle, et on se parlait seulement au niveau de la pensée. C'est-à-dire, moi je pensais, et elle écrivait sur l'ordinateur ce que je pensais. Et donc elle avait la possibilité de voir plein de choses, et elle m'a dit que c'était la mère de sa mère d'aujourd'hui. Et donc, comme elle a mal éduqué sa fille, elle est revenue en fille pour que la mère l'éduque. C'est-à-dire inverser le processus. Mais quelque chose d'inimaginable. C'est-à-dire qu'elle pouvait, dans cette classe, te dire que le hérouv à tel endroit est coupé maintenant. Ce que j'ai vu moi, pas qu'on m'a raconté. Hein. C'est pas un matin de Torah différent, c'est un dévoilement de la Torah. Torah Hadasha Meitikese. C'est un pasouk clair. C'est-à-dire une nouvelle version des choses va venir. La preuve, c'est que même les mitzvot, Akidot et Yitbatel. Qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot vont s'annuler? Ça veut dire que tu as atteint un autre degré de lumière, il n'y aura même pas de Rav et de Talmidim. Tout le monde sera Kulam Yed Uotim, les Miktanam et Adgdolam. Il n'y aura pas d'élèves et de raves. On va avoir une connaissance qui mal'ar et zéa et hachem, une connaissance, on n'arrive même pas à concevoir ce que ça veut dire avant que ça arrive. Bezrat Hashem bimera bi'amenu amen. Toda rabba.